Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Jean. Texte de la liturgie catholique romaine pour le 20e dimanche.
Moi, je suis le pain qui est vivant, celui qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour l'éternité. Le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde.
Les Juifs se disputent entre eux en disant :
Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ?
Jésus leur dit :
Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et ne buvez pas son sang, vous n'avez pas vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraie nourriture et mon sang est vraie boisson. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et comme je vis par le Père, ainsi qui me mange, celui-là vivra aussi par moi. Tel est le pain descendu du ciel, non pas comme les ancêtres ont mangé et ils sont morts, qui mange ce pain vivra pour l'éternité.
Jésus dit ces choses alors qu'il enseignait dans une synagogue à Capharnaüm.
Chers auditeurs et auditrices, bonjour, bonjour André.
Bonjour Georges. Quelle serait la réaction à l'écoute de ce texte d'une oreille peu accoutumée à l'Évangile? Mais nous-mêmes, chrétiens trop habitués, comment vivons-nous ces paroles?
Eh bien, regardons où se trouve ce texte. Nous sommes à Capharnaüm, à la fin du long entretien entre Jésus et la foule, au lendemain du grand repas des pains multipliés. Et pour comprendre cette finale, il faut donc rappeler brièvement ce qui a précédé. Au sommet de sa mission en Galilée, Jésus a rassemblé une grande foule sur la montagne. Après avoir enseigné longuement jusqu'à la tombée du jour, disent Marc, Matthieu et Luc, Jésus a organisé un grand repas où les pains ont été multipliés pour nourrir la foule. Et celle-ci a été enthousiasmée à la vue du signe qu'il venait d'opérer.
Celui-ci est vraiment le prophète, celui qui doit venir dans le monde. Mais Jésus, sachant qu'on allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira à nouveau, seul, dans la montagne.
Alors comment les foules ont-elles compris ce grand geste du repas et quel sens Jésus lui donne-t-il? Eh bien, pour tenter de comprendre le dialogue entre les Juifs et Jésus, il peut être utile de nous rappeler ce que représente le repas dans la Bible. Manger à la même table, c'est manifester l'unité de ceux qui mangent ensemble. Puisqu'on puise ensemble à la même source de vie, puisqu'on se nourrit de la même nourriture, ceux qui partagent un pain unique deviennent un seul corps, comme le dira très bien l'apôtre Paul dans la lettre aux Corinthiens.
Puisqu'il y a un seul pain, nous sommes tous un seul corps, car tous nous participons à ce pain unique.
Cette réunion dans le repas se vivait au temple, lors des sacrifices de communion. Ceux qui offraient à Dieu un animal le mangeaient tous ensemble pour être en communion avec Dieu. Mais cette communion ne se réalise pas seulement par la même nourriture matérielle. Si le repas réunit, ce n'est pas uniquement parce qu'on mange ensemble, mais c'est parce que les convives communiquent. La communion se réalise surtout par le partage de la parole. La littérature juive disait « Quand deux ou trois sont réunis et parlent de la Torah, Dieu est au milieu d'eux ». En effet, parler de la Torah, c'est se nourrir ensemble de la sagesse de Dieu, c'est se laisser conduire par cette sagesse, c'est vivre selon l'esprit de celui qui donne la sagesse. Qui accueille dans sa vie la sagesse de Dieu deviendra ainsi fils et fille du Père des cieux. Et donc, les commensaux vont devenir frères et sœurs, dans cette commune filiation envers Dieu. Au grand jour de Dieu, à la fin du temps, c'est donc un grand repas qui va symboliser la communion des fils et filles de Dieu, comme le dit le prophète Isaïe au chapitre 25.
Le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, va donner sur cette montagne un festin pour tous les peuples, un festin de viande grasse et de vin vieux.
Et on retrouvera ce même message dans les propos de Jésus.
Eh bien, je vous dis que beaucoup viendront du levant et du couchant pour prendre place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le règne des cieux.
Eh bien, à la lumière de ces textes, on comprend que devant ce grand repas des pains multipliés, la foule ait pu découvrir que Jésus pouvait être le prophète Messie, celui que tout le peuple attendait avec ferveur pour qu'il le libère de l'occupation romaine et de la misère. Dans la situation économique difficile de ce temps où Israël est occupé depuis près de 100 ans par les Romains, la foule pense surtout à son besoin de pain. Si ventre affamé n'a pas d'oreille, comme dit le proverbe, la foule a-t-elle pu percevoir que Jésus veut répondre à un besoin plus spirituel ?
Ce n'est pas parce que vous avez vu des signes que vous me cherchez, mais parce que vous avez mangé des pains à satiété. Il faut vous mettre à l'œuvre pour obtenir non pas cette nourriture périssable, mais la nourriture qui demeure en vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera.
Oui, passer de ce plan de la nourriture matérielle au plan spirituel, eh bien, ce n'est pas toujours très facile. Pour amener plus loin la compréhension de ceux qui ont mangé, Jésus va s'appuyer sur la Bible elle-même. Déjà, lors de l'Exode, les tribus juives avaient été nourries de manne et de caille d'une manière providentielle. Dans sa réflexion, par la suite, le peuple avait compris que la manne devait conduire à une autre nourriture qui est celle de la parole de Dieu.
Dieu t'a fait avoir faim et il t'a donné à manger la manne pour te faire reconnaître que l'être humain ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur Dieu.
C'est d'ailleurs pour cela que dans la tente de réunion, qui est la demeure de Dieu au milieu de son peuple, lors de l'Exode, la parole et le pain vont se trouver désormais réunis sous la forme des tables de pierre qui, où sont écrits les 10 grands préceptes de la Torah, mais aussi du vase qui conserve la manne. Mais Jésus veut amener plus loin encore ses auditeurs. Jusqu'alors, la parole de Dieu a été une parole écrite sur des tables de pierre. Elle apportait la connaissance du bien et du mal, et elle indiquait le droit chemin de la vie. Écoutons le Deutéronome au chapitre 30.
Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Moi qui te commande aujourd'hui d'aimer le Seigneur ton Dieu, de suivre ses chemins, de garder ses préceptes, ses règles et ses coutumes.
Mais une règle de vie, la plus belle soit-elle, ne fait qu'indiquer la direction à suivre. Elle ne donne pas la force d'accomplir ce qu'elle prescrit. Elle ne donne pas la force de vivre et d'agir selon cette règle. Depuis longtemps, d'ailleurs, les prophètes disaient qu'il fallait que la règle soit inscrite dans le cœur, c'est-à-dire qu'elle soit réellement vécue. Et Jésus va se présenter comme celui qui vit parfaitement la règle de Dieu, mais bien plus encore, comme celui qui peut aider ses disciples à vivre selon la sagesse de Dieu. Comme la règle est comparable au pain qui nourrit et fait vivre, Jésus se présente comme le pain de vie, le véritable pain. Car il est non seulement celui qui dit la règle, mais c'est celui qui la fait vivre, dans la mesure où le disciple s'unit d'amitié à son maître, dans la mesure où le maître s'unit à celui qui l'accueille, à celui qui va se nourrir de lui. Dans les heures difficiles, dans les moments d'épreuve, voire de tentation, il ne suffit pas en effet de savoir ce que dit la règle de vie, il faut aussi et surtout avoir la force intérieure pour la vivre. L'amitié de Jésus, l'intimité qu'on peut vivre avec lui, peuvent nous aider à vivre cette règle, cette sagesse de Dieu. Paul exprimera magnifiquement cela dans la lettre aux Galates.
Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Car ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi.
Ainsi Jésus pourra affirmer, celui qui vient à moi n'aura pas faim, celui qui croit en moi n'aura pas soif. Mais comment parvenir à cette intimité avec Jésus? Eh bien, ce va être le thème de notre récit.
Tel est le pain descendu du ciel. Non pas comme ont mangé les ancêtres et ils sont morts. Qui mange ce pain vivra pour l'éternité.
Le pain qu'ont mangé les ancêtres, c'est donc le pain de la Torah. La Torah, la sagesse de Dieu révélée à Moïse. Cette Torah d'ailleurs que les Juifs apprennent par cœur dès leur jeunesse. Pour bien saisir les propos imagés de Jésus, il faut en effet se replonger dans la coutume des gens de la Bible. À l'époque de Jésus et depuis Moïse, la seule transmission possible de la connaissance de cette sagesse de Dieu, c'est le bouche à oreille. Oh, bien sûr, il existe des rouleaux d'écrits, mais ces rouleaux sont volumineux, ils sont peu nombreux. Alors, dès son plus jeune âge, le jeune juif va apprendre par cœur la Torah, cette Torah que son père lui transmet en la récitant et que sa mère lui fait répéter. Le père met donc dans la bouche de son fils les mots mêmes de la Torah de Dieu. Il lui faut les dire et les redire à haute voix, les chanter même en se balançant, pour que peu à peu, ces mots s'impriment dans sa mémoire. Plus tard, ce sera le rabbi qui prendra le relais du père et qui transmettra son savoir à ses appreneurs, mais ce sera toujours le même procédé. Ainsi, l'enseignement passe des lèvres de l'enseigneur aux lèvres de l'appreneur. Il est, pour ainsi dire, comme mastiqué dans la bouche récitante. On le mange et on s'en nourrit, comme le dit le prophète Ézéchiel.
« Fils d'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. » Je le mangeai. Il fut dans ma bouche d'une douceur de miel.
Il nous est sans doute difficile de réaliser concrètement ces images. Nous sommes aujourd'hui des gens du visuel et non plus de l'oral. Mais lorsqu'il s'agit de la parole de la Bible, il s'agit de mots à écouter au sens le plus fort de ce mot. Bien plus, il s'agit de mots à imprimer dans notre mémoire, dans cette mémoire du cœur, qui est le centre intime de notre être, là où se prennent les choix de vie, où se décident les manières d'agir. L'apprentissage de mémoire, cet apprentissage que nous nommons d'ailleurs du joli mot d'apprentissage par cœur, cet apprentissage se fait en répétant les mots et les phrases. L'apprentissage est plus facile si on répète à haute voix en chantonnant et en se balançant. Ce sont d'ailleurs encore les pratiques juives et musulmanes. Alors, nous, chrétiens, serions-nous dispensés d'imprimer en notre cœur les paroles de notre maître? Celui qui buccalise, c'est-à-dire qui fait rouler dans sa bouche et dans sa gorge les mots mêmes de Jésus, celui-là expérimente concrètement ce qu'est manger le pain de Jésus. Ainsi, celui qui aura mangé ce pain des paroles de Jésus, celui qui aura écouté ses leçons de vie, celui-là pourra instinctivement les mettre en œuvre et les transformer en gestes quotidiens. Cela fera partie de son instinct. Il vivra et agira réellement selon les paroles de son maître. Et peu à peu, eh bien, va se développer une unité profonde entre l'enseigneur et l'appreneur. « Si vous retenez mes paroles, dit Jésus, vous demeurerez dans mon amour. » Pour exprimer cette communion intime entre lui et ses disciples, Jésus prendra comme image celle du cep de vigne.
« Je suis le cépage et vous êtes les sarments. Qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. »
L'aboutissement de cette communication des règles de la vie divine, c'est que tout l'être de l'enseigneur va s'incarner dans celui de ses appreneurs.
« Le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. »
Oui, celui qui est en communion intime avec les paroles de Jésus, celui-là va ne faire plus qu'un avec lui. Il a, pour ainsi dire, assimilé son être, sa personne, sa chair. L'Évangile dit que le Verbe, la parole divine, s'est fait chair, que Dieu s'est fait humain. Dans la langue de la Bible, l'expression « chair et sang » désigne l'être humain tout entier. d'où les expressions jumelées de la chair à manger et du sang à boire, qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Le réalisme de l'expression ne saurait faire de doute, il ne s'agit pas bien sûr ici de cannibalisme, mais de communion spirituelle, d'inhabitation spirituelle. L'assimilation des paroles et des gestes du maître réalise une unité organique vivante. L'aliment qu'est la parole de l'enseigneur devient vie en celui qui l'ingurgite. L'appreneur va agir avec son enseigneur, va agir par lui, en lui. Il s'agit d'une communion plus réelle encore que celle de l'union de l'homme et de la femme, dont la Bible nous dit qu'ils seront une seule chair.
Aussi l'homme laisse-t-il son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Ils deviennent une seule chair.
Ailleurs, l'Évangile nous décrit en d'autres images le réalisme de cette communion. Écoutons le chapitre 14 de Jean.
« Si quelqu'un m'aime, il observera ma parole et mon Père l'aimera. Et nous viendrons en lui et nous établirons chez lui notre demeure. »
L'amour qui unit Jésus à ses disciples, est toujours à base de paroles gardées et mises en pratique. C'est-à-dire que l'amour se réalise dans la communion des volontés et des agirs. Aimer Dieu et son envoyé, c'est découvrir dans l'envoyé et dans sa parole la vérité de la vie. Et c'est surtout vivre selon cette vérité découverte et comprise. On ne comprend bien que ce qu'on s'efforce de vivre. Et si nous voulons comprendre tout ce qu'on peut comprendre de Jésus et de l'Évangile, il faut vivre à fond tout ce qu'on a compris. La lumière de l'Évangile n'est pas une illumination qui nous demeurerait extérieure. C'est un feu qui exige de pénétrer en nous pour y opérer une transformation. Avec Jésus, nous pouvons devenir des viveurs de Dieu dans le quotidien de nos vies. Nous pouvons être ce petit coin d'humanité où la parole de Dieu peut se faire chair pour continuer les gestes et la vie du Christ. Il s'agit de vivre en ami de Jésus dans la recherche commune de la vérité et par la communion des pensées et des actes.
Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui.
Voilà ce que Jésus peut dire lorsqu'il partage la parole et le repas avec ses disciples. L'on sait que les repas sacrés sont des coutumes fréquentes au temps de Jésus, comme d'ailleurs encore aujourd'hui chez les Juifs. Le repas de la Pâque, le repas du Shabbat rassemblaient les familles dans les maisons privées. Et des groupes pieux comme les pharisiens et les esséniens pratiquaient entre eux de tels repas sacrés. Les Esséniens avaient même transposé dans leur repas sacré bien des coutumes du temple, puisque ce groupe juif ne fréquentait plus le temple. Comme le repas sacré met en communion avec Dieu, ainsi les repas de Jésus avec ses appreneurs, avec ses disciples, les mettaient en communion réelle, au point que Jésus a pu dire « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux ». En rompant le pain de blé et en rompant la parole, Jésus se donne à ses disciples. Voici ma chair, voici ma personne tout entière qui se donne à vous et qui veut demeurer en vous, comme le Père demeure en moi et que je demeure dans le Père.
Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi. Qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux comme toi en moi. Je leur ai fait connaître ton nom, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux.
C'est en effet en leur faisant connaître tout ce que le Père lui a transmis que Jésus a fait de ceux qui l'écoutent davantage que des appreneurs et des disciples.
Je vous appelle amis, parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître.
Ainsi, donner sa chair signifie pour Jésus donner sa vie avec amour, c'est-à-dire vivre pour et en celui qui accueille sa parole. Comment comprendre l'étonnement des Juifs qui se demandent comment ce Jésus peut donner sa chair à manger? Il y a sans doute ici, bien sûr, le procédé habituel de l'évangéliste Jean qui se sert des quiproquos pour faire avancer la réflexion. Les Juifs, peut-être aussi, Avaient-ils de la difficulté à comprendre l'intimité à laquelle Jésus les appelait, comme l'écrit Xavier Léon Dufour? Les Juifs se refusent à dépendre radicalement pour la vie éternelle de ce Jésus qui leur parle, car cette dépendance leur semble intolérable et même sacrilège pour eux qui ne veulent connaître d'autres sauveurs que Dieu seul.
Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour.
Si l'assimilation des paroles de Jésus, qui sont les paroles du Père, nous unissent à lui dans l'amour, alors nous vivons de Dieu, nous connaissons Dieu, au sens biblique de ce verbe « connaître » qui signifie la connaissance intime que donne l'amour. Jésus dira « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi Père, et ton envoyé ». Vivre et aimer comme Jésus, c'est vivre et aimer en union avec Dieu l'Éternel. C'est être animé, au sens le plus fort de ce mot qui vient d'âme, âme qui signifie la vie, c'est être animé de l'Esprit du Père qui est un esprit d'immortalité. Kabir, un disciple de Ramananda qui vécut en Inde au XVe siècle, a écrit ce très beau récitatif qui exprime bien ce que nous disons en ce moment.
Ô ami, espère en lui pendant ta vie, connais pendant ta vie, comprends pendant ta vie, car dans la vie est la délivrance. Si tu ne brises pas tes liens pendant ta vie, quel espoir de délivrance auras-tu dans la mort? Si nous le trouvons maintenant, nous le trouverons ensuite. Sinon, nous ne ferons que demeurer dans la cité de la mort. Si tu es uni à lui dans le présent, tu le seras dans l'éternité.
Mais cette vie, en communion avec le Dieu vivant, Jésus justement l'assure à ses disciples pour maintenant et pour l'au-delà de la mort.
Mes brebis écoutent ma voix et je les connais. Et moi, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main.
Si le pain qui est donné par Jésus est vraiment le pain qui demeure, c'est parce que le lien avec Jésus nous conduit à la résurrection. Cette certitude d'être conduit à la résurrection par Jésus nous vient de la victoire de Jésus sur le mal. Et cette victoire, c'est la croix qui en est l'emblème. Face au reniement des siens, face à la trahison de Judas, au rejet des chefs du peuple, Jésus a vécu le jusqu'au bout de l'amour. En lui ne se trouveront jamais ces germes de mort spirituelle que sont le ressentiment, la haine, la violence. Ce que Jean Lacroix, un philosophe, a écrit de l'amour traduit bien la pratique de Jésus. Aimer, dit-il, c'est promettre et se promettre de ne jamais utiliser les moyens de la violence envers ceux qu'on aime. En aimant jusqu'au bout, jusqu'au pardon, jusqu'à se livrer à la mort de la croix, Jésus est devenu l'humain en qui ne se trouve aucune trace de mal, aucun germe de mort. Ressuscité par le Père, il est et il sera pour toujours source de vie et d'amour pour tous ceux qui l'accueillent dans leur vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a vie éternelle. Le couple chair et sang nous renvoie probablement à la fin tragique de Jésus, au don de sa vie sur la croix. En effet, dans les sacrifices du temple, chair et sang désignent la victime animale qui est offerte, sa chair sera mangée et son sang sera versé sur l'autel. Mais la victime offerte réunira aussi dans une même communion en Dieu ceux qui font cette offrande. Eh bien, ainsi sera la vie de Jésus, une offrande au Père pour réunir dans l'unité tous les fils de Dieu qui sont dispersés. Maurice Zendel disait que le mot clé de l'Eucharistie était le mot « ensemble ». Écoutons-le.
Notre Seigneur nous a donné rendez-vous en l'Eucharistie pour que nous venions ensemble. Car s'il est toujours là, nous ne sommes pas là. L'Eucharistie a pour but de nous rendre présents au Seigneur, de nous ouvrir à tous les trésors de grâce et d'amour dont son cœur est gonflé pour nous. Il nous a donné rendez-vous à sa table ensemble, parce qu'il est l'œcuménisme vivant, parce qu'il est le grand rassembleur, parce qu'aucune créature n'est exclue de son amour. Nous ne pouvons le joindre comme il est qu'en essayant de nous rendre semblables à ce qu'il est.
L'apôtre Paul pourra dire à propos du repas eucharistique, « Toutes les fois que vous mangez ce pain que vous buvez à cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Oui, vous annoncez la mort du Seigneur, c'est-à-dire vous vivez la mort du Christ et vous accueillez cette mort dans votre vie, afin que cette mort qui est une mort d'amour vous donne la vie en vous permettant à votre tour d'aimer jusqu'au bout, jusqu'au pardon comme Jésus. Oui, faire mémoire de Jésus, c'est aller jusque-là, aimer jusqu'au pardon de l'ennemi 70 fois, 7 fois. Eh bien, voilà sans doute un entretien difficile. Il l'a été pour les Juifs contemporains de Jésus. Il le demeure pour nous. Il est le tableau de fond de toute Eucharistie. À la messe, le chrétien reçoit son Seigneur sous toutes les espèces, celle du pain et celle de la parole. Comme l'écrivait Marcel Jousse dans un très beau livre, La Manducation de la parole, dans cette synthèse du pain et de la parole, nous avons ce qui était au début le tabernacle normal du christianisme. C'était la communion sous toutes les espèces. Eh bien, nous rappelle Marcel Jousse, vous avez desséché tout cela. Vous faites faire la première communion à vos enfants. Est-ce que vous leur faites faire aussi leur première récitation de l'Évangile? Alors qu'on a pu nous dire autrefois qu'on avait sa messe si on arrivait à l'offertoire, on comprendra avec cette page d'Évangile que la messe, c'est tout autant la table de la parole que la table du pain, et qu'il ne faut jamais séparer l'une de l'autre. Si l'Évangile de Jean ne décrit pas le partage du pain lors du dernier repas de Jésus, le Jeudi Saint, eh bien nous trouvons dans cet entretien de Capharnaüm tout ce qui peut en expliquer le rite. Un rite que nous, chrétiens, nous transmettons de génération en génération. Oui, heureux les invités au repas du Seigneur.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-256-4110.
514-256-4110. Vous pouvez également vous abonner pour 3 mois, 6 mois ou 1 an, soit aux cassettes, soit aux feuillets.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement Jean Béduchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine. Ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.